Vous écoutez
RMC.
RMC.
Aïe, 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 oui, oui. J'ai parlé français.
Je voulais souhaiter la bienvenue à Bruno. Ben Vindo.
Ça va bien, toi. Ah, bonjour, la maison. Parti.
Jusqu'à minuit.
C'est l'afterfoot. Nicolas Jamain.
Mais oui, bonsoir à toutes et à tous. L'After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit. L'After, la seule émission de France en direct. 7 jours sur 7, casting du soir. Bonsoir, coach Courbis.
Salut les amis, salut à tous.
Bonsoir, Lionel Charbonnier.
Salut Nico, salut coach, salut à tous.
Et mon Willy Sagnol est là. Nico. Salut Willy.
Et salut Nico, bonsoir à tous les amis.
Ça va les garçons?
Salut Will.
Comment ça se passe?
Bah ouais, ça va, écoute.
Coach, t'es bien? T'es confiné?
On s'accroche.
T'accroches? Bon, Lionel? Dans ta Bourgogne?
Oui. Moi, je suis toujours un privilégié. J'ai de la chance d'être là où je suis. En plus, il fait beau. C'est magnifique. Je voudrais que tout le monde soit ait la chance que j'ai.
Messieurs, on est ensemble pendant deux heures. Le sommaire ce soir, la Ligue qui a fixé comme date de fin du championnat le 25 juillet et de reprise de la saison prochaine le 22 août. Qu'en pensez-vous? On en parle bien sûr au 32-16. Appelez-nous. Tony Parker, d'accord pour succéder à Jean-Michel Aulas à la tête de l'OL, bien sûr. Est-ce que l'idée vous plaît, supporter lyonnais? Le hashtag RMC Live, appelez-nous au 32-16. L'OGC Nice qui devrait passer à la vitesse supérieure niveau mercato l'été prochain. On en reparlera avec notre correspondant Jordan Olivier. Pourquoi le football? Cette question, messieurs, importante. Pourquoi le football et les footballeurs sont-ils si inaccessibles aujourd'hui? Pourquoi, si vous ne payez pas, vous ne pouvez plus voir un joueur en vrai? Faut-il rouvrir le football au public, aux fans, aux spectateurs, bannir les entraînements à huis clos? Systématique, on en parlera avec vous, j'attends votre avis, messieurs. Et tiens, et puis ce soir, on va s'intéresser aussi à ces joueurs aux moyens limités, techniques ou physiques, mais qui ont fait une très belle carrière. Envoyez-nous vos idées sur l'hashtag RMC Live au nom de joueurs. Et puis dans la deuxième heure, le bazar. Allez, le bordel au Barça, 6 dirigeants qui démissionnent. Élection anticipée demandée pour la présidence du club. Quelles conséquences sur l'équipe? Fred Armel sera avec nous, bien sûr. Et puis enfin, la suite du grand tournoi de l'After. 4e, 8e de finale ce soir entre moi et Lionel Charbonnier.
Oh non.
Quoi, pourquoi tu dis non, Lionel?
C'est parce que je suis nul à ces
trucs. T'as toutes tes chances, attends. Apparemment, le quiz est adapté à tes qualités, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit.
Ouais, t'as raison. J'ai aucune qualité là-dedans.
Vous connaissez le principe, le 32-16, appelez-nous Aftarien, le hashtag RMC Live et l'application Direct Studio. Messieurs, c'est parti. D'abord, nos infos du jour. Je vous le disais en préambule, la Ligue 1 qui nous paraît si lointaine. Tiens, messieurs, au passage, donnez-moi les 5 premiers de Ligue 1. Vous en souvenez ou pas?
Les 5 premiers actuellement.
Après 28 journées. Ouais, quand vas-y, coach.
Bah, Paris Saint-Germain. Ouais. Marseille.
Rennes.
Lille, Rennes et Reims. Monaco.
Reims, non?
Ah, mais tu vois, on a déjà oublié.
Monaco, non, avant Reims.
Ouais, je vous le donne, les gars. Tu dis Monaco avant Reims, coach, c'est ça?
Non, c'est.
Ouais.
Non, alors. Je sais plus. Paris 1, Marseille 2, Rennes 3, Lille 4, Reims 5e.
Ah.
Nice 6e. Lyon 7e, Montpellier 8e, Monaco 9e, coach.
Et ouais. Ah bon?
Et ouais, à 10 points du podium.
Bah c'est difficile, ouais, d'être, c'est, tu vois, ça c'est difficile loin, hein. D'être 9e avec l'équipe de Monaco.
Et puis on oublie vite, tu as vu? Ouais. Bon, justement, la reprise de la Ligue 1, c'est pas pour tout de suite. Hein. A priori, on attend la locution télévisée d'Emmanuel Macron lundi soir pour en savoir plus sur le rallongement du confinement qui va être déterminant dans la reprise des entraînements et du calendrier, bien sûr. Mais aujourd'hui, le bureau de la LFP s'est réuni et il a décidé d'une date pour l'arrêt de la saison Ligue 1 au plus tard le 25 juillet, avec pour objectif de jouer les barrages la semaine du 25 juillet au 2 août prochain. Le bureau a aussi entériné les dates de reprise de la Ligue 1 le week-end du 22 août, donc de la saison suivante, 2021-2022. L'idée du bureau de la Ligue est de ne pas trop impacter la saison prochaine et le premier versement.
On a la tête à l'envers.
Ouais, d'accord, mais on est bien d'accord que c'est une idée, c'est un souhait, c'est un espoir.
Souhait, c'est voilà. Un espoir pour l'instant, ah ouais. On n'en sait pas plus. Hein. Évidemment, voilà. Il voulait être proactif, comme il le disait à la Ligue, faire des propositions dès maintenant, au cas où, et idéalement, terminer la Ligue 1 le 25 juillet, et donc la reprendre, je vous le disais, le 22 août, ça veut dire quoi? Qu'il y aurait un mois entre la fin du championnat, idéalement, je dis bien idéalement, et la reprise du championnat suivant.
Ouais, mais ça, s'il faut passer par là, écoute, ça sera déjà une bonne...
Comment, pendant un mois.
Quoi que je
et les joueurs, ils ont des vacances, ils partent en vacances, attends, ils partent en vacances, tu fais quoi?
Les joueurs, on parle quand même d'une période qui ne s'est pas passée depuis pratiquement 100 ans. eh ben ils changeront les habitudes. Et s'il faut, pour continuer ce métier, qui est quand même un métier assez extraordinaire, mais assez court, eh ben avoir dans une carrière 8 jours de vacances seulement, excuse-moi, on va pas pleurer, on va être content, parce que ça voudra dire que le virus a été combattu.
Ça veut dire que tu auras fini le championnat alors à toute bringue, tu vois, sur 2 mois et 10 journées encore à jouer, plus les Coupes d'Europe pour les clubs concernés. Et derrière, on va dire quoi, 10 jours de vacances, et tout de suite du foncier, puis la reprise de la Ligue 1.
Eh bien, on fera ce qu'on pourra, mais je te dis, déjà, souhaitons et prions qu'on redémarre le championnat, qu'on le termine, et si après il y a des problèmes entre la fin de ce championnat, la Champions League et le redémarrage de l'autre championnat, c'est pas grave, ça, pour moi c'est le moins grave.
Willy, qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, non, je pense pas que ça soit la priorité absolue, parce que tout le monde sera dans le même cas, il y aura plein d'autres championnats qui seront dans le même cas aussi. Et ben il y aura des préparations athlétiques différentes, les préparateurs physiques plancheront sur des méthodes différentes, et puis ça impactera les 6 premiers mois. Après, il y aura de nouveau une petite rêve à un moment donné pour recharger les batteries.
Pensez quoi l'idée de Jean-Pierre Rivère, le patron du gym de GC Nice, qui disait repartons sur une année civile. Démarrons la saison suivante en janvier prochain.
Mais difficile après, parce qu'une fois qu'elle sera terminée, cette année civile, on fera comment après la Coupe du Monde ? On continuera les championnats dans les années civiles dans l'avenir ?
Il faudrait se réadapter.
Oui, mais le problème, c'est que si tu veux changer ton mode de fonctionnement, il faut que tout le monde le change. Tu peux pas avoir
un accord des championnats européens.
Voilà, tu peux pas avoir 7-8 championnats qui disent on fait année civile, que t'en aies 7 ou 8 qui disent non, on reste en année de août à juin, c'est pas possible. Donc
c'est pas que les championnats, c'est tous les contrats, il va falloir tout changer, quoi.
Moi je pense que si on en arrive à l'idée Rivière, appelons ça, ça serait pas une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on n'a pas pu faire autre chose.
Après, Nico, moi, cette reprise, on parle de reprise au mois d'août d'une préparation d'un mois. Mais étant donné qu'on ne connaît pas la date de reprise, on ne peut pas parler de préparation d'un mois. Tu vois, on ne sait pas.
La reprise, c'est idéalement, ce serait le 22 août. Alors, la fin du championnat, la 38e journée, si on y arrive, c'est 25 juillet. Reprise le 22 août.
Si on y arrive. Si on y arrive. On ne peut pas faire de plan de la comète vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer.
On sait rien en fait, les gars.
Ben non. C'est pour ça que je te dis qu'on a la tête à l'envers, c'est-à-dire que on ne sait pas quand est-ce qu'on commence, mais on est en train quand est-ce qu'on va commencer la fin de ce championnat, mais on est déjà en train de décider comment on va faire dans l'intersaison.
On ne sait pas quand on va commencer, mais on a fixé une date quand on va terminer.
Ouais, on a la tête à l'envers.
Vas-y Willy. Après, non, mais une précision.
Moi, je sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que cette annonce faite par la Ligue aujourd'hui, c'est pour dire, bah finalement, c'est nous qui décidons. Après tout ce qui s'est passé depuis quelques jours, où notamment sur le problème des droits télé, on a eu un peu l'impression qu'ils se sont fait mettre un petit peu de côté. Et moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai vu la brève tomber tout à l'heure, que c'était une sorte d'essayer de reprendre en main quelque chose qui leur échappe un peu.
Ouais, et la question, c'est également le premier versement. Annoncer des dates pour éventuellement ne pas impacter le premier versement du nouveau diffuseur Media Pro pour la saison prochaine. L'idée, elle est là.
Absolument.
Et on parle de plus de 100 millions d'euros qui doivent tomber courant juillet. Donc il faut rassurer également le nouveau diffuseur. Voilà, messieurs, pour le calendrier très hypothétique, hein, vous avez raison de le préciser. Le calendrier publié aujourd'hui par la LFP. A priori également, tiens, précision importante que nous envoie Jeannot Séguier concernant les championnats amateurs. La Fédération française de football va mettre un terme aux championnats amateurs, même si on attend d'abord la prise, encore une fois, de parole d'Emmanuel Macron lundi soir. Précision importante aussi, cela concerne que les championnats régionaux gérés par les ligues et les départementaux gérés par les districts. Hein. Pas encore pour l'instant les championnats nationaux, hein, National 1, National 2, National 3, D1 féminine et D2 féminine, qui sont pour l'instant épargnés. Mais bon, si ça ne s'arrange pas, si le confinement est prolongé, ces championnats seront également en danger. Voilà pour les championnats amateurs. Tiens, une info qui vient de tomber également, c'est pas une surprise, on s'y attendait. Olivier Piqueux n'est plus le manager du SCO d'Angers après 14 années passées au club, licencié aujourd'hui. Sa direction lui reproche des fautes graves, caractérisées et répétées, de nature, je cite, à porter atteinte aux intérêts du club. Olivier Piqueux a envoyé un communiqué il y a quelques minutes qui dit « J'ai pris acte de cette décision de mon licenciement pour faute grave avec effet immédiat. À ce stade, je laisse au président Saïd Chaban le soin de communiquer les motifs allégués pour tenter de justifier cette décision que je conteste avec la plus grande fermeté. » Fin de citation. La direction du club d'Angers assure qu'il ne s'agit pas d'un conflit personnel entre Olivier Piqueux et le président Saïd Chaban. Hein. Tout va bien à Angers, coach, hein, en ce moment.
Surprenant quand même, hein, puisque c'était un petit peu...
Il bossait bien.
Souvent un exemple, ce trio, président, ouais, directeur sportif, entraîneur, et bizarrement, là, c'est parti en vrille.
Franchement, il pourrait intéresser des clubs en Ligue 1. C'est un gars qui connaît très bien le réseau, la Ligue 1, qui a fait des merveilles avec Angers sur plusieurs saisons. Je sais pas, faudrait voir
après,
si c'est
intéressant. Après, reste à savoir voilà, la communication qui va être faite par rapport aux fautes graves, est-ce qu'elles sont avérées et tout ça.
C'est, pour l'instant, on les connaît
parce
pas.
Que, voilà, des fois, si c'est une faute très grave qui est avérée, ça peut en refroidir plus d'un. Hein.
Exactement. Voilà pour les actus du jour. Tiens, aussi cette déclaration de Tony Parker accordée à nos camarades de ce foot. Hein. Vous vous rappelez Jean-Michel Aulas, il y a 5 jours, qui avait déclaré qu'il voyait en Tipeee son successeur possible à la tête de l'OL. Aujourd'hui, Tony Parker a expliqué et a répondu. Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu'il y a derrière. Je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais si un jour il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas. Les gars, vous en pensez quoi? Coach, oh bah, président d'un club, c'est quand même autre chose, évidemment.
Oh, mais je suis pas étonné, parce que bon, c'est un garçon qui est, je dirais, intellectuellement et dans le sport de très haut niveau, très intelligent et très compétent, avec encore, comme il le dit lui-même, une marge de progression. Mais que ce gars-là soit suffisamment intelligent pour bien s'entourer et prendre ce relais de la même façon que, même s'il n'y avait pas cette différence d'âge, Jean-Michel Aulas pourrait remplacer Tony Parker, président, en sachant bien s'entourer aussi.
C'est la question.
Le fait de changer de sport, évidemment que c'est important, mais pour moi, dans le métier de président, puisque président pour moi c'est un métier, je pense que c'est savoir bien s'entourer la chose principale.
Ça implique de connaître les rouages du foot quand même un peu, coach. Hein. Bien s'entourer, c'est quoi? C'est prendre des gars qui sont insérés, qui ont du réseau.
Ben justement, bon, si par exemple le problème de Tony Parker, ça serait que lui c'est le basket et pas le football, mais étant ce sont des sports collectifs, quelque part ça se ressemble un peu, et après tout ce qui est technique, tout ce qui est footballistique, eh ben c'est là qu'il faudra bien s'entourer, mais les compétences pour être boss et number one, je vois Tony Parker capable.
Willy, ça te paraît un peu farfelu comme idée ou c'est tout à fait crédible?
Non, c'est crédible. Farfelu, pas du tout. Loin de là. Ça se rapproche. Aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est que je me rapproche plus de quelque chose de crédible que quelque chose de farfelu. Après, attention, parce que Jean-Michel Aulas, il n'est pas seulement président d'un club.
Bien sûr.
Il est président d'une énorme structure. C'est un club qui est coté en bourse. Donc à chaque fois, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, tous les jours, c'est ton objectif numéro un, c'est que ton cours en bourse, surtout, ne chute pas. C'est une très, très, très grosse machine. Tony Parker a une carrière d'athlète, mais exceptionnelle. Il fait partie des je sais pas, peut-être des 10 meilleurs sportifs français de l'histoire.
Ouais, voire des 5 même, ouais.
Ouais, je sais pas, parce qu'après, comparer les sports, c'est difficile, Nico, parce que t'as des Tony, t'as des Teddy Riner, t'as des Fourcade, t'as oui, des Sébastien bon. Loeb, t'as des Zidane, t'as des Platini, enfin, il y en a du monde, mais bon, il a une carrière extraordinaire. Et attention, parce que passer d'une carrière de joueur à président du groupe OL, c'est pas un delta, c'est y a une énorme ouais, différence parce qu'aujourd'hui
dans un premier temps il se fait les dents à l'ASVEL.
Oui, mais à l'ASVEL, il a mis du monde pour y travailler. Il n'y est pas non plus toujours, il est encore un peu encore entre deux chaises, on va dire maintenant président du groupe OL. Après, tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités à côté, Tony Parker. Et oui, président du groupe OL, t'as pas d'autres activités.
Bah, hein. Il est président d'un club de basket.
Justement, il se retrouve à l'OL. Je pense pas que ça sera sans Jean-Michel Aulas dans un premier temps qui justement l'accompagnera.
Ça serait la meilleure des choses pour tout le monde, que ça soit pour Parker, que ça soit pour Aulas et pour l'OL, ça serait la meilleure des
Absolument.
Choses.
On rappelle qu'il a des relations dans le foot, hein. C'est un très proche de Thierry Henry, également Tony Parker, patron de l'ASVEL masculin et féminin, également propriétaire d'une station de ski, Tony Parker. Voilà pour lui, ce serait pas avant 2023-2024, hein. C'est ce qu'avait dit Jean-Michel Aulas, il pense se retirer d'ici 3 à 4 ans. Tiens, également une information, en tout cas une rumeur insistante concernant Ousmane Dembélé. Je sais, un joueur cher à ton cœur, coach, que tu as connu à Rennes. Alors ce gars, ce jeune joueur là, champion du monde, on le rappelle, blessé très régulièrement au Barça, en 3 ans il a cumulé les blessures. Malgré ça, coach, il intéresse des clubs italiens comme la Juve et l'Inter Milan, qui se penchent sérieusement sur son cas.
sur son cas, mais ça dépend le prix.
Et oui, mais a priori, le prix est élevé. Il reste élevé.
Eh bien, écoute, on suivra ça avec beaucoup de curiosité, en espérant que tout va bien sur le plan physique, sur le plan athlétique et sur le plan musculaire.
Tu crois pas ? Tu penses que ce garçon est, j'allais pas dire perdu pour le foot, mais tu as des grosses interrogations sur son avenir ou pas ?
Disons qu'on est obligé d'en avoir. Quand tu as 9 blessures musculaires avec 2 opérations, des opérations qui sont quand même de l'attache du biceps fémoral, rien que le terme de ces muscles-là, ça c'est inquiétant. Donc si tu veux, si après des blessures aussi graves, des opérations, il peut revenir à 100%, mais on sera les plus heureux, mais on est obligé d'avoir un point d'interrogation.
Et Lionel, il doit insister au Barça, Dembélé ou pas ?
Je sais pas s'il doit insister ou quoi, mais après le coach il a dit c'est le problème, ce qui doit, lui il doit pas se il doit pas trop se formaliser sur le club où il ira ou s'il doit rester ou quoi. Lui ce qu'il faut c'est qu'il retrouve la forme et le coach a raison. Quand t'as eu ce type de blessure, et surtout ce qui est embêtant, c'est les attaches. Quand les attaches sont touchées, c'est très très embêtant. Donc il faut que lui se focalise sur sa santé et qu'il essaie de revenir, que ce soit au Barça ou ailleurs, ou à la Juve. Ou franchement, pour lui, ça doit pas être. C'est pas là le souci. Son souci, c'est lui déjà.
Moi, je pensais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je pensais que ces clubs-là profite un petit peu de la période difficile de Dembélé pour trois figues. Mais si par exemple vous m'expliquez qu'un
peu, mais tu prends un risque, hein, c'est vrai,
en plus c'est cher.
Et c'est un jeune joueur.
Ouais, mais après il y a des là c'est le Barça, ils ont une certaine façon de travailler. Dembélé a eu beaucoup de soucis physiques, de partir dans un autre club avec d'autres méthodes d'entraînement, avec peut-être une autre vision du travail athlétique, ça pourrait lui être bénéfique. La Juve, on le sait que c'est un club depuis des années en termes médical, c'est le top de ce qui peut se faire au niveau européen. Alors oui, ils ont eu quelques ligaments croisés, mais ça, de toute façon, tu peux pas toujours le prévoir. Mais le reste du temps, regarde, les joueurs, ils ont pas beaucoup de blessures. Ils ont pas beaucoup, beaucoup de blessures, ou peut-être sur des joueurs un peu moins importants. Mais il y a quand tu vois la façon dont travaille la Juve. Moi, j'avais fait un séminaire quand je passais mes diplômes d'entraîneur là-bas, en termes médical, en termes de préparation athlétique, en termes et surtout de suivi individualisé. Mais c'est exceptionnel. Et je pense que Dembélé, ce qu'il a surtout besoin lui, c'est que son club, je veux pas dire dédie quelqu'un simplement à lui, mais presque. Ah, si. Il va falloir que son futur club, s'il doit partir, bien sûr, y ait quelqu'un qui l'accompagne quasiment au quotidien.
Lionel, un club comme le Barça, qui est le plus riche du monde actuellement, ne serait pas capable d'individualiser un travail pour un joueur de ce potentiel-là.
Mais aujourd'hui, tu as, regarde le Barça, la culture
c'est
du Barça, c'est quoi
au Barça.
C'est, la culture du Barça, c'est quoi ? Tu as un ADN au niveau du jeu, donc tout ce que tu vas faire tous les jours aux entraînements, ça va être par rapport à ça. Et peut-être que Dembélé, il a besoin de travailler différemment. Mais quand tu fais des entraînements tous les jours collectivement, c'est difficile de rajouter des entraînements individuels. Et qui plus est, après 2 ans où il a quasiment très peu joué parce qu'il a toujours été blessé. Quand t'es sur un constat, on va dire, d'échec, c'est pas forcément toujours sa faute. Parfois, les blessures, elles arrivent, c'est pas toujours ta faute. Mais quand t'es sur un constat d'échec, comment il est, je pense que la meilleure façon de rebondir pour lui, c'est d'aller dans un autre environnement avec d'autres, je dirais, d'autres personnes autour.
Et en ce qui concerne le Barça, chacun de ses périodes, il y a des périodes où tu es inspiré et d'autres un petit peu moins. Quand on voit l'opération, appelons ça Coutinho, quand on voit Dembélé, quand on voit Griezmann, quand on voit Mike Home, là, qui était, on peut pas dire quand même qu'il y a un grand flair. Hein.
Et puis il est pas simple forcément de s'intégrer au Barça aussi, c'est ce qu'on dit souvent. Il y a un style de jeu très très particulier, très précis.
Il y a un joueur particulier.
Et puis il y a un joueur particulier qui prend beaucoup de place. On parlera du Barça tout à l'heure évidemment, et Fred Hermel, parce que
Suarez est blessé lui aussi.
Exactement. Tiens, tu parlais de Philippe Coutinho à l'instant. On apprend aujourd'hui qu'il ne devrait pas rester au Bayern Munich où il est prêté par le FC Barcelone. C'est vrai qu'il y a eu un intérêt du PSG évoqué l'été dernier. A priori, il n'existe plus cet intérêt-là. Le joueur se verrait bien revenir un jour en Première Ligue selon son agent qui a Jurapchian. Voilà pour Coutinho, qui depuis 2 ans s'est un peu perdu, effectivement, depuis qu'il a quitté Liverpool. Voilà messieurs, dans un instant on parle du gym, le GC Nice, avec notre correspondant sur place, Jordan Olivier. Cette question, faut-il s'attendre à un été de folie à Nice sur le marché des transferts? Le premier vrai mercato du propriétaire Ineos. A tout de suite, on est ensemble jusqu'à minuit. Appelez-nous, supporters niçois au 32-16, le hashtag RMC Live et l'application Direct Studio.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas,
Nicolas Jamin, jusqu'à minuit avec Coach Courbis, avec Lionel Charbonnier, avec Willy Sagnol. On est ensemble pendant deux heures, bien sûr. On sera avec Fred Hamel dans quelques minutes pour évoquer la crise au Barça. Six dirigeants ont démissionné aujourd'hui. Quel avenir pour le président actuel Bartomeu? Qui pour lui succéder si une élection anticipée est organisée dans les prochaines semaines? On en parlera avec Fred Hamel dans un instant, bien sûr. Mais d'abord la Ligue 1, le GC Nice. Faut-il s'attendre à un été de folie sur la Côte d'Azur, sur le marché des transferts l'été prochain? Le vrai premier mercato de Nice. Salut Jordan Olivier.
Bonsoir Nico, bonsoir coach, bonsoir Willy, bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Jordan. Notre correspondant à Nice, Jordan. Bon, comment ça va à Nice actuellement?
Ça va plutôt bien.
Pas de reprise prévue, rien.
Oui, il fait très très beau, pas de reprise prévue pour le moment. Si tu me parles en tout cas des joueurs de l'OGC Nice, pas de reprise prévue du tout. Ils travaillent individuellement chez eux avec un programme qui a été donné par Patrick Vieira et par le staff. Ils sont également en contact assez régulier avec Jean-Philippe Gilardi, qui est le médecin qui est à la disposition des joueurs s'ils ont le moindre petit pépin, la moindre petite question. Donc voilà, un peu comme tous les Français finalement, les joueurs de l'OGC Nice sont confinés à la maison et ils travail en cas d'une éventuelle reprise, évidemment.
Alors, rappelez-nous, supporter niçois au 32-16, bien sûr, cette question, Jordan. Est-ce que Ineos, le propriétaire du club, va sortir le chéquier l'été prochain? Il l'avait dit à Ineos, hein, et notamment le président Jean-Pierre River du gym. C'est une saison de transition. Il a dit, il a répété tout au long de la saison pour l'instant. Que faut-il s'attendre? À quoi faut-il s'attendre l'été prochain?
Oui, parce que tu fais bien de préciser que Jean-Pierre Hivert n'a cessé de répéter tout au long de la saison que justement cette saison était une saison de transition. Le dernier mercato, enfin le mercato d'été en tout cas, le closing d'Ineos avait été effectué dans les toutes dernières semaines, les derniers jours du mercato. Donc il y avait eu un marché des transferts un peu rapide du côté de l'OGC Nice. On avait quand même tout dépensé 50 millions d'euros, hein, ce qui pour l'OGC Nice n'est pas commun. Et évidemment, on attend du côté des supporters niçois un investissement encore plus important pour cette nouvelle saison. Il y aura du temps a priori pour recruter des joueurs avec Patrick qui sera très vraisemblablement aux manettes la saison prochaine. Il lui reste un petit peu plus d'un an de contrat maintenant à Patrick Vieira. Son contrat se termine en juin 2021. Donc a priori Patrick Vieira aux manettes. Et puis évidemment on attend du lourd au niveau des arrivées, également au niveau des départs. Nico, il y aura pas mal de dossiers à régler, puisqu'il y a deux joueurs majeurs de l'effectif qui arrivent en fin de contrat. C'est Walter Benitez et Malansa. Alors, deux situations un petit peu différentes, puisque Walter Benitez, le gardien titulaire évidemment de l'OGC Nice, n'a toujours pas signé de prolongation. Ça négocie dur depuis le début de la saison avec Mino Raiola, qui est son agent depuis quelques mois seulement. Ça peut poser un problème. En tout cas, Jean-Pierre River connaît très très bien Mino Raiola, puisque c'est l'agent également de Mario Balotelli. Donc les deux hommes se connaissent évidemment très très bien. Il se dit que Walter Benitez aurait des touches en Turquie, peut-être du côté de Galatasaray. Lui, en début de saison, avait répété qu'il souhaitait rester à l'OGC Nice. On est un peu plus dans le flou concernant cette prolongation de contrat de Walter Benitez. Évidemment, ce serait une perte assez importante pour l'OGC Nice.
On va s'arrêter sur Benitez rapidement. Coach, si tu perds Benitez, tu perds très 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 gros là à Nice.
Oui, parce que bon, déjà, il faut le remplacer. Si par exemple tu me donnes le nom du remplaçant, je pourrais me positionner. Mais pour le moment, perdre Benitez, ça serait quand même sacré.
Justement, Jordan, il y a un remplaçant, il y a un nom en tout cas qui circule à Nice.
Il y a un nom qui est ciblé par les dirigeants de l'OGC Nice. Il s'agit de Petra Grajkovic, le joueur de Reims, qui fait vraiment une belle saison avec le stade de Reims, assez solide, le gardien serbe. Alors Jean-Pierre Caillot souhaite le conserver encore au moins une saison supplémentaire. Donc on verra si effectivement Grajkovic prendra ses valises à la fin de la saison. Il faut bien le préciser, hein. Walter Benitez, pour l'instant, n'est pas parti. Il y a toujours des négociations entre le clan Benitez et Jean-Pierre Hivert.
Lionel, quand depuis le début de saison, tu dois prolonger et tu le fais pas, c'est toujours inquiétant quand même.
Ouais, bien sûr. Après, bah, parce que tu réfléchis. Moi, tu sais, entre Rajkovic et Benitez, si Raiola en veut un peu trop cher, et ben, bah, enfin, on demande trop cher pour qu'il reste à Nice. Franchement, moi, je prends Rajkovic.
Oui.
Honnêtement.
Ah ben non, mais moi je fais confiance à Lionel pour le poste de gardien de but. Après, c'est dommage parce que Benitez, c'est le meilleur joueur de Nice depuis 2 ans. Quand ton meilleur joueur depuis 2 ans part en étant libre, c'est pas forcément un bon signe. Après, comme l'a dit Roland aussi, bah, tout dépendra de qui arrivera derrière. Si c'est un gardien au moins aussi bon que Benitez, peut-être même meilleur, et bah, à ce moment-là, ça serait une bonne chose.
Il y a des joueurs également qui sont en prêt, Jordan, à Nice, hein, et il faut leur régler ces cas-là.
Notamment Adam Ounas, c'est le cas un petit peu chaud du côté du gym. Alors pourquoi ? Parce que Adam Ounas est prêté par Naples. Il y a une option d'achat aux alentours des 22 millions d'euros pour Adam Ounas. C'est assez élevé. Et le problème, c'est qu'Adam Ounas réalise jusqu'à présent une saison un petit peu décevante, il faut bien le dire. Même s'il a bien, entre guillemets, terminé là sur les 4 derniers matchs, il restait sur 2 buts et 3 passes décisives, coach. Mais il est assez irrégulier dans son jeu.
Pourquoi ? Je rigole parce que avec ce virus, donc quand on parle de 22 millions, mais comme on sait qu'il va y avoir des problèmes économiques, des problèmes d'argent et tout, oh, 22 millions, mais il y a 2 mois de ça, 22 millions, c'était cadeau. La saison qu'il fait, c'est même pas ni 22 ni 15, imagine, c'est déjà, est-ce que sportivement tu le gardes avant de regarder combien ça coûte?
Donc, il y a une certitude, messieurs, c'est que lui veut rester à l'OGC Nice. Il l'a dit, il l'a redit, il a le sentiment qu'il y a vraiment un projet qui se met en place et il veut pas rater le wagon. Maintenant, la balle est davantage dans le camp de Jean-Pierre Hivert et de Julien Fournier, à savoir s'il souhaite lever cette option d'achat malgré la saison quand même décevante d'Adam Ounas.
Oui, et puis surtout, voilà. Non, surtout, il faut dire, il faut répéter ce que Julien Fournier a déjà dit plusieurs fois. Le projet de Nice, ça va être d'acheter des joueurs assez jeunes et de faire des plus-values. Le projet, il est comme ça. Même si j'ai beaucoup de sympathie pour Adam Ounas parce que c'est moi qui l'ai sorti à Bordeaux.
C'est vrai, ça.
Au centre de formation, ouais. C'est un joueur talentueux qui manque de constance sur la durée, malheureusement. Alors peut-être qu'il a.
Et tu crois qu'il aura un jour, pas pu
encore.
Ou pas
je sais pas, il a pas pu encore enchaîner des matchs peut-être comme il voulait. Là, c'est vraiment la première saison. Il a été blessé, il s'est blessé à Monaco, où il s'est blessé pendant plusieurs semaines derrière. Je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse une année complète pour qu'on ait vraiment une idée de son, je dirais, de ce qu'il peut faire.
Son meilleur poste, Willy, c'est un petit peu comme Tobin,
côté droit.
Gaucher, côté droit.
C'est côté droit. C'est un joueur qui a pas de. Qui va très vite avec le ballon. Je pense qu'il va même plus vite avec le ballon que sans le ballon. Il lui faut de l'espace. Il lui faut de l'espace parce que dans les petits périmètres, il a tendance à un petit peu trop en faire, un petit peu trop vouloir rentrer dans le mur. Donc, il est très bon quand il est sur le côté droit, que tu lui laisses un peu d'espace. Il peut rentrer à l'intérieur sur son pied gauche. Mais je dirais que si aujourd'hui tu lèves l'option d'achat à 22 millions, si ton projet c'est d'acheter des joueurs et de faire des plus-values, ça va être, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, difficile de faire une plus-value avec lui. Mais bon, je peux me tromper et que si finalement s'il fait une année l'année prochaine toute l'année des matchs régulièrement, peut-être qu'il va, bah, sa progression va reprendre.
Puis bon, il faut quand même s'habituer aussi à une chose, et j'ai l'impression que parfois, je dis bien parfois, on l'oublie un peu, c'est pas parce que tu as une option à 22 millions que ça sera une obligation de mettre à 22 millions. Hein. Donc tu fais une contre-proposition à 12, peut-être que Naples te le laisse.
C'est 12, c'est ce que Naples avait payé.
À Bordeaux. Exactement.
Voilà, donc peut-être tu peux peut-être un peu entre les deux.
Ouais, ce serait plus cohérent, quoi, finalement. 10-12 millions d'euros. Laurent, supporter niçois, est avec nous, 32-16. Salut Laurent.
Salut à vous.
Bienvenue. Salut, dans Laurent. L'after. Salut, Willy, salut, Lionel, Laurent. Et coach Courbis, t'écoute.
Comment allez-vous?
Bien.
En forme?
Ouais, bon. Ça va, et toi?
Bah, ça va, je viens de terminer un bon plat de légumes avec de l'ail et de l'huile d'olive, donc je suis en pleine forme.
C'est très niçois, très ça. Dis-nous, qu'est-ce que tu attends de l'été niçois avant même l'issue de la saison?
Bah, moi, je suis assez confiant avec ce projet. En fait, je voulais revenir rapidement sur le trading de joueurs, parce que j'ai entendu plusieurs fois que Nice allait s'orienter vers ça. Moi, je ne le pense pas, parce que déjà, avant l'arrivée d'Ineos, où il y avait beaucoup de moyens, le président River, alors je parle pas de la petite parenthèse avec sans le président River, hein, je parle de quand River était là, il faisait pas du trading. Si tu veux, il y avait un contrat à Nice qui était que les joueurs devaient au moins rester 2 ans, et on a vu que les joueurs restaient souvent 3-4 ans avant d'être transférés. C'est pas du trading pur et dur avec on achète un joueur, on fait de la plus-value tout de suite, etc. Et ça, à Nice, je pense que le président River y tient beaucoup, et c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, qu'il avait démissionné avec Fournier en janvier 2018 ou 2019 plutôt. Maintenant, en ce qui concerne le futur de l'OGC Nice, on a vu que là, le mercato a été un petit peu tronqué, parce que faut quand même savoir qu'Ineos est arrivé mi-août, donc le budget avait été acté sous l'ancienne direction de Chien Li, 52 millions d'euros. Les 50 millions de transferts ont été possibles grâce à la vente de Seri et de Saint-Maximin, qui ont rapporté 50 millions. Donc, faut savoir que ces 50 millions d'achats ont été possibles grâce à 50 millions de ventes, en fait. Il n'y a pas eu de un euro ni en plus. Maintenant,
ce qui enfin, Seri, question, Seri, excuse-moi, mais Seri, oui. Ça fait un moment qu'il est parti quand même.
Ouais, c'est, oui, Seri, c'était pas cette saison.
Oui, mais l'argent avait été conservé pour, il n'y a pas eu de dépenses. Ça avait été vraiment conservé pour ce mercato-là. En ce qui concerne l'année à venir, moi, je suis très confiant, parce que il y a en plus le retour d'un homme très important à Nice, les Recordiers, qui avait fait une petite pige à Monaco et qui vient de revenir à Nice, qui est un élément dont on parle très peu pour, mais la cellule de recrutement est très forte à Nice. Là, les très belles années où on a vu toutes les bons classements de Nice ces derniers temps, c'était avec Recordiers. Donc là, le trio est reconstitué, Recordiers, Fournier et le président River, avec en plus des moyens qui sont supérieurs. River est quelqu'un d'assez tempéré, donc il veut pas tout faire d'un coup. D'ailleurs, ils doivent pas avec le fair play financier de toute façon. Mais je pense que moi, j'ai complètement confiance en cette cellule de dirigeants. Je pense qu'ils vont y aller. Ils ont toutes les infrastructures au niveau du club, le centre de formation, les terrains d'entraînement. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour faire un beau projet à Nice. Et je pense que comme c'est des gens qui m'ont l'air assez intelligents, moi, j'ai vraiment confiance. Je pense que ça va y aller progressivement, et il faut quand même pas oublier que ce que j'ai entendu cette année, qu'on devait être européen absolument. Il y a les supporters niçois qui sont extrêmement impatients comme d'habitude, mais ça, c'est assez propre à Nice.
Ouais, enfin, ça peut quand même accélérer la croissance du projet, Laurent, si vous me permettez. Hein, parce que l'argument de non, calmez-vous, on est en transition. Si tu peux accélérer la croissance, tu prends.
Bah oui, mais on a quand même un mercato qui a été fait avec 52 millions de budget l'année prochaine. Oui, si Nice sera les ambitions de Nice. Alors, si on est européen, tant mieux. Là, on est sixième. On ne sait pas comment tout ça va se terminer. Mais si l'année prochaine, effectivement, l'année prochaine, ça sera de jouer la Ligue Europa, je pense que le projet niçois sera d'être dans les 5-6 du championnat. Mais cette année, c'était un peu délicat,
coach,
quand même.
Coach, ce qu'il y a de sûr, c'est que là, je suis d'accord avec toi, puisque bon, on a, et j'ai le plaisir de les connaître. Donc là, Nice est dans de bonnes mains. Ça, c'est sûr.
Après, moi, je m'interroge, Laurent, parce que tu parles de projet. Le projet, il va changer, puisque justement, les nouveaux investisseurs ont vraiment dit que eux allaient faire un projet. Allez, ça va être, c'est des joueurs qui vont garder 2 ans, pas plus, honnêtement. Et est-ce que l'entraîneur, est-ce que Pat Vieira va être à même tout le temps de tirer la quintessence de ses joueurs et d'être européen tout le temps avec un effectif à reconstruire? Moi, j'ai peur que votre attente ne soit pas à la hauteur des possibilités techniques
d'un
club qui fait de la post-formation.
Pour préciser aussi ce qu'a dit notre auditeur, je suis pas sûr non plus que ça soit un projet de trading pur et dur comme on peut voir à l'AS Monaco, où vraiment l'objectif c'est d'acheter des joueurs et de les revendre et faire des plus-values. C'est pas ça qu'on va voir à l'OGC Nice, c'est de prendre éventuellement des jeunes joueurs, les faire progresser, qu'il y ait une marge de progression et de les inclure. C'est difficile à dire, mais c'est de les inclure dans un collectif. Aujourd'hui, à l'OGC Nice,
la problématique, de dire on prend des jeunes pour après peut-être 2 ans, 3 ans après les revendre, ça c'est le cas de beaucoup de clubs et c'est même des projets,
c'est des projets très
intéressants. Voilà.
C'est ce qu'on fait. C'est ce que font tous les clubs.
Willy, c'est ce que font des clubs qui ont besoin du trading pour exister. Monaco n'a pas de rentrée concernant le sponsoring, concernant la billetterie, donc c'est très compliqué.
vas-y, oui.
C'est pas le cas de l'OGC Nice qui a des rentrées d'argent différentes, pas seulement liées au transfert.
Attends, Laurent, vas-y, Willy, après coach, après Laurent.
Parce que moi, c'est pas là que je voulais en venir. Moi, je voulais en venir sur le fait que la problématique aujourd'hui, c'est que depuis 2 ans, on sent que ces jeunes ne progressent plus à Nice. Il y a beaucoup de jeunes, et depuis 2 ans, les jeunes, individuellement, ne progressent plus. Il y en a un ou deux.
C'est un petit peu dur. Il y a des joueurs comme Youssef Attal, il y a Boudaoui qui a été recruté aussi, qui fait une bonne saison. Voilà, il y a des jeunes joueurs à Nice intéressants.
Ça, c'est des bonnes pioches.
Intéressant, oui. Mais après, il faut juger sur les progressions. Quand tu veux acheter des jeunes, à un moment donné, c'est pour qu'ils progressent. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un manque un petit peu de progression. Alors, peut-être qu'il faut qu'ils soient mieux encadrés.
Tu penses à qui, Willy, par exemple?
Ah non, mais je vais te parler du petit Malanxar qui fait trois ans qu'il progresse pas. Il y a eu plein de joueurs même maintenant qui ont un peu disparu. Moi, je me pose juste la question de savoir, avant de vouloir peut-être recruter des jeunes pour les faire progresser, est-ce qu'il faut pas d'abord déjà essayer de recruter 2-3 joueurs un petit peu plus matures avec de l'expérience pour justement faciliter cette progression? Parce que là aujourd'hui, on voit que il y a Dante, il est vraiment au bout, Dante. Le problème, c'est qu'il y a personne pour les encadrer, ces jeunes. Et il faudrait, avant de faire venir des jeunes, pour moi, il faudrait faire venir un joueur par ligne avec une expérience quand même supérieure.
Willy, là t'as raison, je vais dans ton sens. Il manque des cadres véritablement pour apporter de l'expérience, que ça soit d'ailleurs sur le terrain ou en dehors du terrain. On a vu combien de matchs on a vu à Nice, à l'Allianz Riviera, des belles premières périodes de l'OGC Nice, et puis après l'équipe s'écroule en deuxième période parce que finalement il n'y a pas de patron capable également de replacer les coéquipiers, d'apporter des consignes et d'être le véritable relais de Patrick Vieira sur le terrain. Il y a Dante, on est d'accord pour le dire, mais effectivement depuis quelques mois, depuis voire quelques saisons,
c'est quoi son contrat à Dante là?
Il lui reste un an de contrat, un peu plus d'un an de contrat. Il a 36 ans. Bah, je pense que s'il y a un recrutement qui sera fait aussi du côté de l'OGC Nice, il y aura un gros chantier en défense. C'est une certitude.
Je pense quand même qu'on ne peut pas faire la comparaison entre Nice et Lille. Donc, si Nice a envie pendant 2, voire même 3 ans de ne pas transférer pour pouvoir faire du bénéfice et qu'ils ont envie de garder presque le même effectif, c'est pas tout à fait pareil qu'à Lille, qui sont dans l'obligation d'être performants, et Dieu sait qu'ils sont compétents. Mais je regarde du côté de Lille aussi, quand tu vois André au milieu, quand tu vois Fonté, le souci que soulevait Willy, de mettre quand même des gars expérimentés à des postes importants, ça n'a pas échappé non plus du côté de Lille.
C'est vrai, t'as raison. Merci Laurent d'avoir appelé au 32-16.
Je peux juste
rapidement,
en fait, il manque effectivement peut-être 2-3 joueurs, parce que Nice a l'effectif le plus jeune de Ligue 1 et un des plus jeunes des 5 grands championnats d'Europe. Hein. En tout cas, en Ligue 1, c'est l'effectif le plus jeune. Donc, il leur manque effectivement 2-3 joueurs, peut-être de la tranche 27-30 ans, pour, comme vous dites, encadrer tout ça. En ce qui concerne, pour terminer, le trading de joueurs, d'après ce qu'a dit le président River, et on sait très bien qu'il n'a aucun intérêt, que c'est pas quelqu'un qui va rester pour des raisons mercantiles, etc. Quand le projet lui plaît pas, il se barre. Hein. Donc, il a bien signalé qu'avec Ineos, l'idée était de faire grandir l'effectif et pas de vendre les joueurs après un an ou deux au club. Il y aura des moyens. Donc, l'idée, c'est quand même de garder les joueurs assez longtemps. Alors, évidemment, peut-être pas comme certains grands clubs, mais en tout cas, ça sera pas un projet de trading pur et dur. Ça, c'est absolument sûr. En tout cas, d'après ce qu'on dit, hein, effectivement.
Merci Laurent, excellent soir à toi, tu reviens quand tu veux dans l'after, bien sûr.
Avec plaisir, c'est toujours un plaisir, de toute façon.
Tiens, Eric est avec nous également, supporter niçois au 32-16. Salut Eric.
Bonjour tout le monde.
Salut Eric.
Tiens, Eric, ouais, très bien, et toi?
Super.
Tu es taxi à Nice, c'est ça, hein, non?
Eh oui, il y a du boulot. Du boulot pour les gens qui sont malades et qu'on ramène chez eux, malheureusement. Faut être présent.
Il faut être présent quand même. Tiens, avant de donner la parole, Eric, un mot sur le recrutement à Nice, la façon dont travaille le GC Nice et d'autres clubs en Ligue 1, j'imagine. Jordan, aujourd'hui, on a réussi à joindre Julien Fournier, qui est à la tête d'une cellule de recrutement de 12 personnes. C'est beaucoup, oui, ou pas, 12 personnes?
Ça commence à être très intéressant. Il y a des clubs de Ligue 1 qui sont beaucoup moins fournis que ça.
Alors lui, on lui a posé la question, comment faites-vous, en cette période de confinement, en tout cas d'arrêt total, de paralysie du football, pour travailler sur le recrutement de la saison prochaine? Il nous a répondu, écoutez, nous, c'est notre chance. La majorité du scouting se fait de septembre à février chez nous. C'est le gros du travail d'identification des joueurs. Après, on entre plus dans une phase où on affine avec 3 ou 4 noms par poste. Est-ce que c'est normal comme calendrier également, ou est-ce qu'on anticipe? Je sais pas, Willy, qu'est-ce que t'en penses, toi, ou coach?
Ah, non, t'anticipes toujours. C'est la base d'une
saison. Est-ce qu'en février, t'as déjà tes noms?
Ah, bah, écoute, quand même.
Je sais pas, les gars, moi, je vous pose la question.
Moins, si, en février.
T'as une liste. Voilà, tu as une liste. Après, il te restera encore quand même quelques semaines pour réfléchir.
Non, mais c'est normal de les avoir en février. Après, entre le temps de savoir si les joueurs entre février et la fin de l'année se blessent pas, savoir si les clubs vont être vendeurs, à combien ils vont être vendeurs. Oui. Est-ce que toi, entre-temps, tu n'auras pas un joueur qui va se révéler un petit peu, du coup, à ce poste-là où tu voulais recruter, peut-être que tu vas pas recruter. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais c'est le but d'une cellule de recrutement, c'est de toujours travailler en amont pour que et le directeur sportif ou le président ou le directeur du football et l'entraîneur puissent faire des choix à un moment donné.
Eric.
Oui.
Sur Nice, t'as sentiment que ton club travaille bien justement?
Ben, il a bien travaillé à l'époque River Fournier, un peu moins bien peut-être avec les Chinois. Peut-être qu'ils remettent en place les bases qu'ils avaient mises ensemble il y a quelques années en arrière. Alors bon, je fais confiance à Fournier River là-dessus. Ils ont prouvé par le passé qu'ils savaient manœuvrer, donc.
Ouais, mais ce que tu disais tout à l'heure, ne soyez pas inquiet. Là, c'est quand même, entre de bonnes mains.
Alors, coach, je vous avais eu il y a quelques semaines en arrière, on avait rigolé quand j'avais dit qu'il fallait en changer 8 dans l'équipe. Vous vous en rappelez?
Oui.
On avait rigolé un dimanche matin, j'ai dit, tu m'avais dit combien il faut en garder? J'ai dit, on en vire 8. Je crois qu'on n'est pas très loin de la vérité, non? Peut-être.
Oh, ça fait beaucoup quand même, non?
Il y a quoi, 8 titulaires, Eric?
Non, il reste qui? Dolberg, le petit Attal qui va revenir.
Bah, tu gardes Boudaoui, tu gardes Attal, tu gardes Dolberg.
Les Melou,
ouais, tu veux le garder.
Et après?
Claude Maurice, Benitez.
Allez, quand même.
Voilà, Cyprien qui est blessé, mais.
Cyprien qui va revenir.
Non, avec Cyprien, déjà il est blessé, mais basta avec lui. Le petit Ounas, c'était un feu de paille.
Ouais, 8 c'est beaucoup, ça me semble beaucoup 8 quand même. Hein.
Ouais, quand même.
20, non, mais après... 20 millions sur Ounas, c'est de la folie.
Vas-y Willy.
Non mais après de dire qu'on en change 8, 5, 10, 14, 15, tout dépend le projet qui est derrière. Ouais. Si t'as un projet qui est pour être dans les 5 premiers l'année prochaine, oui, il y a beaucoup de joueurs à vendre et il faut en faire venir beaucoup. Si ton projet l'année prochaine, il est de continuer à grimper petit à petit, eh ben il y aura moins de départs et moins d'arrivées. Mais le projet en lui-même, on ne sait pas exactement quels sont les objectifs à court terme, à moyen long terme, on les a compris. Mais
c'est Ligue des Champions,
À moyen long terme, on ne sait pas.
C'est l'Europe, en tout cas, la saison prochaine.
L'objectif sera les 4 premières places, voire les 5e places, les 5 premières places.
Il faut du monde. Hein.
On va vraiment voir l'ambition d'Ineos, ce mercato.
Ouais.
Il faut du monde, messieurs, mais là, cette saison, Nice est 6e, finalement, c'est une saison un peu moyenne, mais ils sont pas si loin que ça de la Coupe d'Europe en fin de saison.
C'est en trompe-l'œil, les gars, cette année, parce que quand on regarde le classement actuel dans la Ligue 1, aujourd'hui, tu as Nice, on dit, ils sont 6e.
41 points derrière.
Nice, ils ont 41 points en 28 matchs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils tournent à 1,4 points à peu près par match. 1,4 points par match.
C'est un rythme contre vous, ça,
Mais normalement, tu es 10e. Une saison normale, tu es 10e. Donc là, le classement actuel,
t'as qu'à regarder le nombre de victoires et le nombre de défaites. Et tu as un parcours presque de
11 victoires, 9 défaites, coach.
Et ben voilà,
c'est très équilibré. 41 points, c'est Reims qui est devant 41 points, et il y a un écart, hein, on le rappelle, Lille 4e, 49 points, tu vois, donc on tient déjà a priori nos 4 premiers à l'issue de la saison. Merci Eric d'avoir appelé au 32-16.
Allez, bonne soirée à tous.
Excellente soirée à toi, messieurs, vous restez avec moi, bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit dans un instant. Un sujet qui me tient à cœur, j'en ai parlé avec Willy, je me rappelle. Faut-il rouvrir le monde du foot au public? Pas seulement devant la télé, bien sûr. Moi, je me rappelle, gamin, messieurs, que quand j'allais au Voyant voir les Girondins, dont Coach Courbis notamment, eh bien, on assistait aux entraînements. C'était gratuit. deux, trois fois par semaine. Il n'y avait pas des bâches autour du terrain. Il n'y avait pas des entraînements à huis clos tous les jours. Il fallait pas payer pour voir des joueurs en vrai. Où vont ce débat-là? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et faut-il rouvrir la Ligue 1, puisque Emmanuel Macron parle d'un monde à reconstruire de manière générale? Faut-il reconstruire un football plus démocratique, plus ouvert également? On en parle avec Willy Sagnol, Lionel Charbonnier et Roland Courbis. Appelez-nous au 32-16, bien sûr, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Jusqu'à minuit, bien sûr, avec Roland Courbis, avec Lionel Charbonnier, avec Willy Sagnol, on est ensemble. Encore pendant une bonne heure, on aura Fred Armel dans la deuxième heure, bien sûr, pour évoquer la crise au Barça, l'avenir du président Bartomeu, et également celui de Messi chez les Blaugrana. N'oubliez pas le grand quiz, le grand tournoi de l'after en fin d'after. Ce sera Lionel Charbonnier contre moi. Voilà. Quatrième, huitième de finale, qui va se prolonger, encore quelques semaines. Voilà pour le programme. Dans un instant, on évoquera également un thème auquel je tiens, puisqu'on a fait dans l'after il y a quelques jours, ces joueurs hyper talentueux qui ont gâché leur carrière. On va faire l'inverse ce soir. Ces joueurs aux qualités, on va dire, moyennes, limitées, qui ont fait une grande carrière. Voilà. Je vous laisse donner des noms sur l'hashtag RMC Live, l'application Direct Studio, appelez-nous au 3216. Mais d'abord, messieurs, Et si on revenait vers un football plus ouvert, des footballeurs plus accessibles, plus proches de leurs supporters? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des clubs, pour voir un footballeur en vrai, eh bien, faut payer. C'est-à-dire qu'il faut aller au stade. Moi, je me rappelle, je le disais avant la pause, coach, Willy et Lionel, quand j'allais voir les entraînements au Wayan, ou même ailleurs, c'était ouvert, on se mettait derrière la main courante et puis on attendait les joueurs. À la fin, on faisait des photos, des autographes et on restait avec eux. On pouvait même parler quelques secondes avec eux. C'est le football que vous avez connu également, hein, les gars. Hein. Je le rappelle, coach Willy et Lionel. Ça a changé. Alors j'ai appelé tous nos correspondants en région, à Lyon par exemple, pour nous dire combien d'entraînements ouverts au public sur une saison. Edouard G m'a dit, allez, une dizaine, pas plus. À Rennes, quasiment aucun. À Paris, aucun. À Lille, un seul depuis le début de la saison, on est en avril. À Marseille, quelques très rares séances dans la saison. D'ailleurs, quand c'est ouvert, on fait un reportage tellement c'est incroyable. À Bordeaux, tout de même, un entraînement, deux parfois par semaine ouvert. Monaco, n'en parlons pas. Il n'y a que les petits clubs qui ouvrent leur entraînement, comme Nîmes ou Amiens, par exemple. C'est quasiment tout le temps ouvert, à part les veilles ou avant-veilles de match. Déjà, qu'en pensez-vous, les gars, et comment en sommes-nous arrivés là?
Bah, à croire qu'ils font de la tactique tous les jours, quoi.
Mais c'est ça la
parce
question.
À la base, bah oui.
C'est pour ça le mardi réponds. Quand tu sors du week-end.
C'est pour ça que je réponds. À la base, tu fermais les bâches et au Hayan, c'est comme ça que vous faisiez. Les bâches étaient fermées le jour où généralement quand il y avait le positionnement tactique deux jours avant le match où tu lèves un peu le pied et peut-être parfois l'opposition. Basta. Maintenant, c'est tous les jours. Et à croire que plus tu travailles mal, plus t'as peur que tout le monde répète ce que tu fais de mal à l'entraînement, de peur que les copains copient, tu vois. Et donc, tu vois plus personne. Tes spectateurs, tu t'arrives même plus à voir tes joueurs, tes joueurs préférés que t'adores, à qui tu fais le salaire et tout ça. Et surtout, quand ils sortent du vestiaire, surtout, faut qu'ils sortent vite et qu'ils rentrent vite dans la voiture pour partir au plus vite, parce que faut pas se mélanger avec le public. Moi, c'est quelque chose qui m'exaspère et je suis d'accord avec toi. J'aimerais qu'on revienne à des bases beaucoup plus saines. C'est un peu ce que j'ai connu, moi, quand je suis allé en Angleterre. J'ai eu du mal à vivre ça. Plus tu snobais les gens en Angleterre, mieux c'était. Plus tu étais adulé. Et moi, j'ai eu du mal avec ça. Et par contre, si on me demande d'échanger ce que j'ai préféré là-dedans, dans ce milieu-là, bah, j'ai préféré mes époques d'Auxerre où vraiment on voyait tout le monde. On allait même boire des coups des fois.
Ça te dérangeait pas
Ça m'a arrangé, j'étais fier de ça. Ça m'a arrangé, j'étais heureux de voir de donner la banane aux gens, j'étais heureux de pouvoir partager leur passion. Allez, c'est quoi pour nous? C'est une minute, c'est un sourire, c'est un regard. Maintenant tout le monde s'en va comme ça, détourne la tête, surtout on regarde pas, parce que si jamais tu regardes, il va falloir que tu t'arrêtes parce que l'autre il va te poser une question.
Alors exactement, tu sais, on va pas se mentir également.
Ça me saoule.
Au PSG, pour voir un joueur, faut espérer qu'il baisse sa vitre teintée quand il sort du parking, en fait. C'est uniquement le seul moyen d'avoir voir un joueur sans payer et sans aller au stade.
Mais après, tu sais, tu as l'exemple très fort quand aujourd'hui, quand tu demandes aux gens du football et toutes les générations confondues, alors sauf ceux qui ont que 10 ans par exemple et les tout jeunes, mais sinon par exemple, tout le monde te dit tout le monde a préféré 98 à 2018 pour les titres de champion du monde, parce que tout le monde te disait, parce que en 98 on pouvait s'identifier à ces joueurs là parce qu'ils étaient proches, oui, parce qu'il y avait une proximité avec les gens, donc je dis pas que c'était Barthez le copain qui jouait ou Zidane le pote qui jouait, je dis pas ça, mais il y avait une sorte de proximité qui n'existe plus. Et c'est pour ça que il y a eu et il y a pour moi, alors je dis pas qu'il y a un désamour pour le football, mais il y a la relation qui a vraiment vraiment, il y a une relation qui a vraiment changé. Moi, pour en revenir à ce qu'on disait, notamment les entraînements à huis clos ou pas, moi quand j'étais à Bordeaux, il y avait un seul entraînement par semaine qui était à huis clos, c'était la veille de match. Tout le reste était ouvert.
Ah oui.
Pourquoi?
Tu faisais ta mise en place?
Voilà, je faisais ma mise en place, mon travail tactique. Oui, mais en fait, pourquoi? Parce que moi, je me calais sur le modèle du Bayern, où le Bayern, durant toute ma carrière, il y avait un seul entraînement fermé dans la semaine au public, c'était la veille de match. Tous les autres jours, c'était ouvert. Là, quand j'y suis retourné avec Ancelotti, il y avait une toute petite évolution, parce qu'entre-temps, il y avait Guardiola qui était arrivé. Guardiola, il est tellement paranoïaque dans sa façon de travailler qu'il avait toujours peur qu'il y ait des gens un petit peu qui viennent regarder. Donc lui, c'était tout enfermé. Mais Ancelotti avait remis de nouveau beaucoup d'entraînements ouverts. Il y avait maximum deux par semaine où c'était fermé, mais sinon, c'était qu'un par semaine. Et moi, je trouvais que cette relation qu'il y avait entre les supporters qui pouvaient venir à l'entraînement, être plutôt proche des joueurs, on retrouve la même dans les stades de football en Allemagne. On dit toujours aujourd'hui les stades en Allemagne sont pleins. Pourquoi ils sont pleins et chez nous ils sont pas pleins?
Et ben c'est pas parce que tu non mais
voilà, c'est pas parce que tu vas mieux exploiter ton stade qu'il va y avoir plus de personnes qui vont venir. C'est pas parce que tu vas créer encore plus d'événementiel qu'il y a plus de gens qui vont venir. Les gens viennent déjà parce qu'ils se sentent proches, parce qu'il y a une proximité, il y a une identification avec les joueurs. Exactement. Si tu mets des barrières, il y a plus d'identification et à ce moment-là, au bout d'un moment, à part les ultras et les fans depuis très longtemps, les autres ne viennent plus.
Ça crée une scission entre le public et tu peux voir un désamour. Je pense qu'aujourd'hui on voit plus vite fait un désamour avec les joueurs et entre les joueurs et le public, tout simplement parce qu'il n'y a pas cet échange dont on parlait avec Willy.
Oui, malgré ça, on parle de désamour, certes, mais on n'a jamais autant regardé des matchs à la télé. Par exemple.
Non, mais on en a jamais regardé autant parce qu'il n'y en a jamais eu autant à la télé.
Oui, mais les audiences fonctionnent, Willy, ce que je te dis, en fait, tu vois.
Mais oui, mais après, c'est normal, les gens. On va pas faire la psychologie de.
Du supporter,
on va pas parler de psychologie de la personne qui aime le football. Plus tu vas lui mettre du foot à la télé, plus il va en regarder. Mais le foot à la télé, c'est différent. Moi, quand tu parles d'ouvrir des centres d'entraînement pour voir les joueurs s'entraîner, c'est pas là les gens qui aiment le foot, ce sont les supporters. Ce sont les possibles supporters.
T'as
des gens, oui, des vacanciers, ouais, des gens de passage, t'en as toujours. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, regarde, pourquoi aujourd'hui aussi on bascule dans un monde où il y a autant d'impatience et il y a autant de frustration quand les choses se passent pas bien? C'est parce que justement, tu crées déjà tellement de frustration dans le rapport entre les supporters et les acteurs du football, qui sont de moins en moins patients.
Tu pardonnes pas.
Et que alors que si t'as une proximité qui est, enfin si t'as une relation de proximité qui est beaucoup plus forte, il y aura beaucoup plus de bienveillance par rapport aux joueurs, par rapport aux entraîneurs qu'actuellement.
Ça peut venir des joueurs aussi, hein, je pense.
On va prolonger le sujet, Lionel. Ouais. Je veux l'avis de coach là-dessus également. Je me rappelle le coach Courbis qui, au Haïan, lui, prenait même le temps de parler avec les supporters après l'entraînement. Coach, reste avec moi. On marque une pause, on revient et on prolonge le sujet. On a des appels au 32-16. Jonathan, supporter parisien, sera avec nous également. Faut-il, avantager à nouveau le rapport des supporters avec les joueurs, recréer du lien physique même, entre eux, et pas seulement grâce aux réseaux sociaux, aux comptes Instagram, aux stories ou à Twitter notamment. On en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot.